Épilogue. Va vers ton risque. Il y a des vacances qui n'en sont pas vraiment parce que les choses semblent s'y fermer. Pendant celle de la Toussaint, les jours décroissent vite, les fenêtres sont closes, les bouches bavardent moins, plombées par un sentiment diffus de deuil et de chagrin. Dans les maisons, tandis que s'invitent les ombres, les vitres froides piègent la moiteur de l'air et maquillent leur belle surface claire sous d'opaques buées. Une peau de larmes s'y forme. Le cafard du dimanche dégouline la semaine entière. La brocante de Paul était désormais morte, et Mona se sentait trahie. De longue date, il avait été convenu qu'elle devait rejoindre Lilia à Rome pour ses vacances automnales. Mais cette promesse italienne, irradiée par l'excitation de s'envoler en avion, fut ajournée à une prochaine fois, tellement évasive qu'elle en devenait cruelle. En fait, les parents de Mona étaient pétrifiés d'angoisse à l'idée que leur fille égare son pendentif fétiche. Et Camille en avait même retravaillé la tâche avec un fermoir renforcé. Il lui était inconcevable de la laisser s'échapper loin d'eux. L'enfant rêvassait dans sa chambre, à même le sol, tête tournée vers le plafond. Elle croyait voir, dans les taches d'humidité naissante, la carte de continents inconnus étalée sur des planètes à la dérive. Elle inventa alors des noms de pays et de peuples, les habilla à sa guise, leur donna des physiques extravagants de nains ou de géants, et imagina ensuite de folles conquêtes à travers les mers démontées, des batailles épiques et surtout des réconciliations sublimes. Sans même s'en rendre compte, elle murmurait ses fresques mentales à haute voix. Autour d'elle, tout était changé. Après s'être débarrassée des vestiges de son enfance, elle avait profité de l'espace libéré pour intégrer des objets de la brocante de son père. Il y régnait un joyeux désordre au milieu duquel traînaient encore des manuels scolaires et des vêtements. Mais l'endroit prenait l'allure d'une petite salle au trésor. Dans ce bazar, on repérait entre autres le jukebox de Paul, sur lequel Mona programmait de temps à autre une chanson de France Gall. On pouvait reconnaître aussi le porte-bouteille en forme de hérisson qu'elle avait tant détesté jadis et qu'elle avait suspendu au plafond avec un fil de pêche, pareil à celui qui cerclait son cou. Quelques vieux livres de collection s'étaient faufilés dans sa bibliothèque. Et puis, par un petit miracle, elle avait récupéré une figurine Vertuni qui avait échappé à la vente. Ce rescapé était un pâtre caressant les cordes d'un luth. Orphée, peut-être. Au mur demeurait l'affiche de Sera, le dessin satirique que lui avait offert une jeune élève copiant la pensée d'Auguste Rodin, et bien sûr, la photographie d'elle et Henri devant le musée d'Orsay. Le téléphone de Camille sonna dans une pièce voisine. Elle décrocha, et à l'impatience un peu inquiète de la voix de sa mère, Mona devina que c'était son grand-père au bout du fil. Camille, visiblement très tendue, faisait les 100 pas, martelant les négations. Que refusait-elle donc? Mona, par un travail de déduction assez facile, comprit ce qui se jouait. Henri plaidait pour que sa petite fille puisse s'éloigner de Montreuil au moins quelques jours. Elle s'aplatit contre le mur, les mains collées à la paroi. Sa mère sembla finalement baisser la garde. « Bon, d'accord, d'accord », lançait-elle désormais en boucle. Et puis, au bout de quelques minutes, elle raccrocha et tonna. « Mona, je sais que tu es derrière la porte et que tu as tout écouté !» Les rires malicieux de l'enfant s'éloignèrent jusqu'à la chambre. Camille l'y rejoignit. Oui, elle allait pouvoir partir un peu. Oui, Cosmos pourrait l'accompagner. Elle avait fini par admettre que sa fille ne risquait rien si Henri se montrait vigilant. Ton grand-père m'a demandé de te dire cette phrase de Cézanne. Elle sortit le papier où elle l'avait noté. Il faut aller au Louvre par la nature et revenir à la nature par le Louvre. Bon, je n'ai rien compris, mais il veut t'emmener voir la montagne Sainte-Victoire. Oh, ce sera trop beau, maman. Merci, maman chérie. Tu feras très attention, c'est bien compris. Refais-moi voir ton fermoir. Entre Henri et Mona, il y avait désormais la nostalgie des secrets. C'est si grand, c'est si bon d'enchasser dans la réalité une réalité autre où nul n'est jamais invité à entrer. Et c'est si douloureux de devoir un jour renoncer à ce dédoublement. Peut-être est-il alors des pèlerinages nécessaires pour dire adieu à ces vies parallèles. Peut-être était-ce cela le sens du voyage qui se profilait. Peut-être. Dans le TGV, Mana remarqua que son grand-père ne lisait pas. Il semblait plutôt réfléchir avec un air de gravité que l'enfant se mit au défi d'effacer. Pour cela, elle voulut lui montrer quelque chose qu'elle gardait dans sa poche. Pendant 52 mercredis, elle avait découvert avec lui 52 œuvres. En cours de route, lors de son anniversaire, elle avait reçu un jeu de cartes plastifiées et avait entrepris de coller au revers de chacune d'elles une reproduction des tableaux, dessins, sculptures, photographies, installations observées avec son grand-père. C'était ce jeu de 52 cartes qu'elle avait emporté. Il était maintenant terminé. Plutôt que de le donner directement à son grand-père, elle mit le paquet sur la tablette devant elle, l'air de rien. Évidemment, cela attisa la curiosité du vieil homme. « Qu'est-ce donc, Mana ?»«
C'est juste mon jeu de cartes, Dadé. J'ai terminé de coller toutes les œuvres qu'on est allé regarder. »
« Est-ce que tu veux dire que tu as attribué à chacun des 52 objets de musée la carte qui lui correspondrait symboliquement ?»«
Je crois. »
Les souvenirs assaillirent Henri, mais il se garda bien de se montrer troublé. Mana avait-elle réellement accompli la gageure de lier pertinemment chacune des œuvres à son enseigne et à sa valeur? Et cela formait-il effectivement un jeu complet? Intrigué, il prit le paquet dans sa main et le décomposa, élément après élément. Alors, le miracle lui apparut. Malgré la lenteur avec laquelle il égrena les cartes, ce fut comme le roman accéléré de l'année écoulée qui s'incarna dans ce qu'avait magiquement produit sa petite fille. « C'est extraordinaire ce que tu as fait là, Mana. Tu ne pouvais pas rendre un plus bel hommage aux 12 mois que nous avons passés ensemble. C'est une véritable œuvre d'art, ce jeu de cartes. »«
Merci, » répondit-elle timidement avec une petite moue fière. « Et toi, Dadé, est-ce que tu vas le faire, ce livre sur mamie ?»«
Oui, je vais le faire. » Mana se blottit contre lui en poussant un petit cri strident de bonheur. Quelques voyageurs se tournèrent vers elle, avec le visage réprobateur des adultes ne goûtant guère l'enthousiasme indiscret des enfants. Elle eut envie de leur tirer la langue, mais une meilleure idée lui vint à l'esprit.
« Oh, Dadé, si on allait au wagon-bar, tu prendrais un café et moi un chocolat, et tu me raconterais tout sur mamie. Viens, Dadé, s'il te plaît. »
Henri hocha la tête. Il emmena Mana. Ils s'assirent côte à côte sur 2 tabourets devant une grande baie vitrée. L'enfant avala sa boisson d'une traite. Le vieil homme ne toucha pratiquement pas à la sienne. L'heure était venue de desserrer l'étau du mystère. Dans ce train qui traversait la France à la vitesse de l'éclair et emportait avec lui le ciel et la terre, c'était le bon moment. Alors il se lança. Colette, raconta-t-il, était la fille d'un résistant de la Seconde Guerre mondiale, catholique et royaliste, qui, capturé par les nazis, s'était suicidé dans sa cellule avec du cyanure pour éviter de dénoncer ses camarades sous l'effet de la torture. De cet épisode héroïque et tragique, son orpheline de fille avait tiré 2 leçons. La première, c'est que la foi en Dieu donne une force sidérante. Aussi devint-elle une chrétienne fervente. La seconde, c'est l'importance de choisir sa mort. Aussi devint-elle une militante de l'euthanasie. Henri et Colette tombèrent fous amoureux l'un de l'autre. Dans le scellement de leur union passionnée, sur une plage où ils ramassaient des séries de gommiers, Colette avait fait promettre à Henri que si un jour elle décidait de disparaître, il ne l'en empêcherait pas. Il avait promis. Au fil des années 1960 et 1970, elle s'engagea de manière pionnière dans la cause de l'euthanasie. Malgré ses convictions religieuses, qu'elle n'abandonna jamais tout à fait, Colette Vuillemin se heurta à des campagnes de calomnies très violentes de la part des milieux conservateurs et de l'Église. Il y eut par exemple d'abominables attaques dans la presse. Colette ne se découragea cependant jamais. Elle se bagarrait encore et toujours. Son malaise, c'était de constater que les progrès de la médecine, très louables en eux-mêmes, produisaient des situations paradoxales. Au fur et à mesure qu'on trouvait les moyens de prolonger la vie jusqu'à 90 ou 100 ans, parfois plus, au fur et à mesure qu'on repoussait la résistance de la nature humaine, apparaissaient des maladies neurodégénératives qui faisaient parfois de ces âges avancés des moments agoniques inacceptables. Colette Vuillemin milita pour remuer les consciences. Elle y parvint dans certains pays comme la Belgique et la Suisse. En France, ce fut plus difficile. Mais cela ne l'empêcha pas, de façon clandestine, d'accompagner dans leur dernier souffle, par sa présence bienveillante et solaire, des patients qui avaient préféré en finir plutôt que de continuer à souffrir. Il faut dire que Colette était une personnalité incroyablement joviale, férocement drôle, entourée de beaucoup d'amis. Elle fumait, appréciait les bons vins, dansait le tango mieux que personne. Elle avait d'improbables passions, quasi compulsives, et se mettait parfois à collectionner, sur un coup de tête, des gammes entières d'objets insolites, des minéraux, des cartes postales, des tissus rares, des dessous de verre, et puis les fameuses figurines Vertuni. Un jour d'hiver, à 70 ans passés, Colette eut des maux de tête épouvantables, puis des fourmillements incessants et des troubles du toucher. Pire, elle maîtrisait moins bien ses gestes, lâchant parfois sa cigarette sans le vouloir. Elle consulta, le verdict tomba. Elle était atteinte d'une maladie rarissime, rongeant petit à petit le système cérébral et contre laquelle n'existait aucun traitement. Un mélange entre Alzheimer et Parkinson, qui portait le nom d'un éminent professeur américain. Ah, Dieu me fait du pied sous la table pour que je le rejoigne, disait-elle pour désamorcer le drame, et de surcroît, elle le pensait vraiment. Elle s'attela alors à entretenir sa mémoire grâce à sa collection de figurines. À chacune, elle donna un nom et attribua une courte biographie fictive. Tous les matins, elle éprouvait son cerveau en empoignant une au hasard, dont elle devait se remémorer l'histoire qu'elle avait elle-même imaginée. Au début, l'exercice ne lui posait aucun problème. Elle pouvait tirer du carton un arlequin, un fantassin, une lavandière ou un fauve du Bengale. Elle tapait toujours juste, faisant montre d'une fraîcheur enfantine. Les médecins pouvaient-ils se tromper? Et puis un matin, elle buta sur un nom. Un autre s'effaça. Un troisième se confondit avec un quatrième. La maladie gagnait la partie. Très vite, les crises devinrent plus intenses, jusqu'à un épisode d'une cruauté asphyxiante. Colette saisit la figurine d'un jeune garçon allongé sur un banc et eut la sensation qu'elle avait tout oublié de ce qu'elle avait pu inventer à son sujet. Et cet homme de plomb, ce banc, cette position allongée, ses couleurs peintes, ses formes, furent nimbés de vide sémantique. Le langage s'était tari d'un coup, et avec lui la signification du monde. Le cerveau vacillait, s'apprêtait à sombrer dans le chaos. Alors, revenu un instant à davantage de lucidité, Colette décida qu'il fallait en finir. Dignement, mais rapidement. En finir avant de se transformer en une inertie respirante. Camille protesta contre cette décision, parce que les signes du déclin lui semblaient beaucoup trop ténus. Et elle en voulut amèrement à son père de ne pas intervenir auprès de sa femme pour enrayer le destin. Mais Henri, bien qu'au désespoir, avait fait une promesse à la femme de sa vie. Tout se termina sur un repas éblouissant d'émotions. Les amis de Colette se retrouvèrent autour d'elle pour lui porter un toast l'accompagnant vers l'au-delà. Elle était rayonnante, n'avait pas peur. Enfin, elle eut ces mots pour sa petite fille. « Oublie le négatif, ma chérie. Garde sans cesse la lumière en toi. » Et elle partit pour une clinique dont Henri préféra oublier le nom. Le train était immobile. Mona aussi. Elle eut l'impression d'être restée en apnée tout au long du récit de son grand-père, comme si elle s'était pétrifiée pour endiguer une rivière de larmes. Et maintenant qu'Henri s'était tu, elle sentit la rivière devenir torrent et courir vers la digue pour la faire sauter. Mais cette ruée s'arrêta net.
Carmona venait d'entendre la fermeture des lourdes portes du compartiment. Les doigts crispés sur son pendentif, elle regarda par la fenêtre. Il y avait un grand panneau, Aix-en-Provence, et le train s'ébranla.
« Dadé, Dadé, on a raté l'arrêt, on a raté l'arrêt, on a oublié de descendre !»«
Ne t'en fais pas, » murmura le vieil homme, un sourire en coin.
« Dadé, la Sainte-Victoire !»«
Nous allons un peu plus loin. »« Un peu plus loin ? Mais où donc ? Où allait-il »
C'était étonnant comme ce grand-père vibrait encore et toujours d'aventure. Il y a des êtres en ligne droite et d'autres en bifurcation. Henri, jusqu'à la mort, devait être de la seconde espèce. La Sainte-Victoire pouvait attendre. Un autre monument les accueillerait d'abord.
Mona et Henri s'arrêtèrent une cinquantaine de kilomètres plus au sud. C'était la gare de Cassis. Ils descendirent et se mirent à marcher le long d'un sentier.
Quelle lumière !
Sous l'effet du doigt levé de l'après-midi, Mona aperçut autour d'elle de gigantesques pins parasols. L'engourdissement du train s'était dissipé au contact du parfum de la mer et des transparences nacrées dans l'atmosphère. Les quelques bandes de nuages prenaient des tonalités mauves et fauves. Mona courut vers les flots. C'était grisant ce soleil d'automne, dont les morsures sur la peau s'étaient attendries depuis que l'été avait laissé sa place. Elle s'interrompit dans son envolée, attendit Cosmos qui galopait. Les bras en croix, Mona se dressa face au soleil. Elle l'observa sans cligner des yeux, sans même les plisser. Elle trouva un bâton échoué sur le sol.
« Va chercher, Cosmos !»
Et l'animal accéléra soudain, attrapa le bois entre les dents, le hissa fièrement. Il ne sut pas immédiatement quoi en faire. Fallait-il le rapporter à sa maîtresse ou le mâchouiller tranquillement ? Il hésita, tourna la tête vers l'enfant, revint vers elle au petit trot d'une démarche incertaine.
« C'est bien, mon chien. Mais où était Henri ? En retrait. »
Mona avisa son interminable silhouette. Il avait l'air à la fois d'un jeune homme et d'un fantôme. Alors il s'approcha d'elle, s'accroupit, regarda sa nuque fine et lui dit « C'est maintenant. Je te le jure sur ce qu'il y a de beau sur cette terre. » Maintenant. Aux mots d'Henri succédèrent les fusées du vent. L'enfant prit quelques secondes, fronça les sourcils. Elle comprit. Toutes les larmes qu'elle avait canalisées un peu plus tôt dans le train poussèrent à nouveau. Elle lutta, les dompta, acquiesça. Cette plage, c'était celle qui avait vu 60 ans auparavant Henri et Colette s'adressaient leurs promesses. Cette plage, c'était celle qui les avait vus ramasser ensemble de simples séries de goumiers pour en faire des fétiches protecteurs. C'était donc maintenant. C'était maintenant qu'il fallait tenter la guérison comme on tenterait le diable, en rendant le fétiche au cycle d'une vie qui n'avait pas été la sienne pour s'en libérer et s'appartenir. Mona avait peur. D'une peur qui vous enjoint de ne surtout rien essayer sous peine de tout ruiner. Et à cette peur primaire s'en mêla une seconde, surgit par effraction. Un jour, Dadé mourra aussi. Un jour, il partirait, usé par l'âge. Il s'en irait pour de bon et à jamais, de l'autre côté. Elle le perdrait. C'est d'ailleurs cela, l'apprentissage de l'enfance, la perte. À commencer par la perte de l'enfance elle-même. On apprend ce qu'elle était en la perdant, et on apprend qu'on perdra tout, et tout le temps. On apprend que perdre est la condition indispensable de la sensation vitale, de l'intensité présente. On croit que grandir, c'est accumuler des gains d'expérience, de connaissances, des gains matériels. Mais c'est un leurre. Grandir, c'est perdre. Vivre sa vie, c'est accepter de la perdre. Vivre sa vie, c'est savoir lui dire au revoir à chaque seconde. Mona, cependant, n'avait pas accès à ces considérations. Et quand bien même ses peurs ne se seraient pas éclipsées, la menace de cécité se profilait pour de vrai. Elle était tangible, physique. et les grands mots dans ces moments deviennent tout petits, minuscules, inaudibles, complètement écrasés par le danger à défier. Mona, va vers ton risque.
Oui, Dadé.
L'enfant serra pour la dernière fois de sa vie le pendentif en le retirant doucement. Un sourd tremblement la secoua. Elle poursuivit néanmoins son geste. Le fil de pêche passa le menton, la bouche, les oreilles, se mêla aux cheveux, puis quitta la tête. Mona eut tout à coup l'horrible impression de mouche volante dans les yeux. Les bestioles s'accumulaient pour former un essaim grossissant sans cesse. Le coquillage était maintenant dans sa paume droite, qui avec les doigts déliés ressemblait à un écrin de marbre. La nuit ne se contentait pas de tomber sur son regard. Elle spiralait en un tourbillon dont ses pupilles étaient le centre. Mona ne voyait plus rien. Son esprit chavirait tandis que l'univers s'était éteint autour d'elle. Elle était si affreusement étourdie qu'elle ne pouvait pas émettre le moindre son, pas même pour se plaindre, et dans les contrées sombres de sa tête, un abîme se creusait. Était-elle seulement consciente? Elle s'accrocha à un courant de pensée comme le naufragé au rondin de bois flottant sur l'onde. « Le noir est une couleur », parvint-elle à se formuler, et ce faisant, la phrase illumina quelques points dans les ténèbres. Une constellation se dessinait de plus en plus saillante, arrachant au néant un relief inespéré. Mona crut revoir en un chaos fragmenté les visages amis et les formes inspirantes que recelaient les œuvres observées pendant l'année passée. Jusqu'à ce qu'un halo stabilise l'image plus nette d'une figure adorée. Colette était là. C'était incroyablement doux de la sentir ainsi. Mona voulut s'amalgamer à son être. Il suffisait de rêver. Mais la présence de Colette se dissipa à son tour, et par une sorte de signe invisible, elle semblait prier l'enfant de sortir du tunnel dans lequel elle s'était engagée, et surtout de ne plus jamais se retourner.
« Mamie ! Oh, reste ! Mamie ! Mamie ! Reste ! Reste ! Reste !»
Puis la poix aux paupières, encore, et les tremblements. Mona sentit une pression. Cela ressemblait aux doigts maigres de son grand-père sur sa clavicule. Elle sentit aussi une caresse râpeuse. Cela ressemblait à la langue du chien sur sa paume. Elle se débattit avec elle-même, avec ses yeux qu'elle s'efforça de faire papillonner. Était-il ouvert? Pourtant, elle ne voyait toujours rien. Elle continua, continua, revint à l'état de veille. Mais non, toujours rien. Et là, enfin, les pleurs tellement contenus de la petite fille, ces pleurs qu'en grandissant on apprend docilement à tarir, les pleurs intraitables de l'enfance surgirent sans que rien ne pût en enrayer l'avant. Ils nettoyèrent en Mona tout résidu de suie, toute limaille et toute cendre. Et soudain, le bleu. Par tache peut-être, mais le bleu. Le jaune. Oh le jaune. Par éclair, soit. Mais le jaune, le rouge, mon Dieu, le rouge, par nappe, certes, mais le rouge. Et puis leur combinaison, Mona attrapa un brin de vert, un soupçon de mauve, une touche d'oranger. Des nuances s'invitèrent à la fête, vermillon, alizarine, magenta, corail, amarante, cinabre, groseille ou garance. Des lignes apparurent, et bientôt des volumes, genèse effrénée de la chair du monde. Henri, dont la main n'avait pas abandonné l'épaule de Mona, ne disait rien. Quant à Cosmos, il répétait en saccade son double aboiement caractéristique qui voulait dire « oui ». Mona avait ouvert les yeux. Elle fixait le série de goumiers de retour à l'endroit précis de son exhumation d'antan. Elle fit glisser du sable dessus, et de sa vue revenue, put détailler les millions et millions de particules qui, comme une marée d'étoiles, ensevelissait maintenant le coquillage. Le sanctuaire était achevé. Elle se releva. Après quelques pas, elle avala une énorme bouffée d'air. La joie montait en elle. Mona prit un peu d'élan et enclencha un tourbillon. Elle se mit à tourner, tout doucement, à tourner sur elle-même, à 360 degrés. Elle tourna comme une toupie, ou peut-être comme le faisceau d'un phare. À mesure que son mouvement accélérait, son centre de gravité se dispersait. Elle vit des roches au bord de l'eau, l'ombrage d'une pinède, des montagnes au nord, des toits à l'est, des navires au large, puis à nouveau les roches, la pinède, les montagnes, les toits, les navires, les roches, la pinède, les montagnes, les toits, les navires. Elle tourna, et les roches se confondirent avec la pinède avec les montagnes avec les toits avec les navires avec les roches. Elle tourna, et au cœur du manège, le monde alentour se métamorphosa en une stratigraphie de couleurs vives, sans rien de reconnaissable. Mona nourrit son vertige jusqu'à tituber. Elle s'affala dans le sable. Reprenant ses esprits, elle regarda droit devant elle. Comme c'était beau! Comme c'était beau le petit désert ambre sur lequel s'écrasait l'écume à l'infini! Comme c'était beau l'onde turquoise qui gonflait sous le vol des mouettes blanches! Comme c'était beau l'horizon clair là-bas, là-bas, le merveilleux horizon clair! Henri s'approcha. En pivotant, elle lui fit l'impression de la jeune fille à la perle de Vermeer, dont le corps semble soudain s'arracher à l'obscurité qui partout le cerne. Il percevait en Mona l'écho du long voyage dont elle était revenue. Il tendit vers sa jolie tête ronde ses bras immenses comme l'univers. Elle lui sourit, un peu sonnée, et l'étreignit. « Oh, Dadé! Comme c'est beau tout ça, et comme c'est beau tout au-delà. »